J'ai l'habitude depuis assez longtemps de savoir que la meilleure des manières d'étudier, c'est d'étudier face à face. Et en fait, ce que j'aurai à dire sera d'une certaine manière induit par la manière dont vous réagirez. Mais ne vous impressionnez pas, la manière dont vous réagirez, c'est la manière dont je vois vos visages, tout simplement. Par conséquent, il est possible qu'à partir d'une analyse, je bifurque sur une autre citation. À ce moment-là, soit je la dirai de mémoire. Soit, si elle se trouve dans le même livre, je vous dicterai la référence exacte. Bien, voilà, l'intitulé de cette étude, c'est qui aura trois volets, un par trimestre de l'année universitaire, c'est au fond la personnalité de Moïse. Et nous allons commencer en première partie de ces analyses à découvrir la personnalité de Moïse. C'est une personnalité qui a assuré à la tradition d'Israël, qui elle commence par les patriarches hébreux, la dimension d'éternité. Effectivement, là je vous donne une citation d'un enseignement des kabbalistes, chacun des grands personnages, des grands piliers de l'histoire d'Israël est défini par une vertu fondamentale des attributs de la relation entre Dieu comme créateur et la créature comme recevant l'être du créateur. Et la vertu, la modalité d'être, la mida, comme nous disons en hébreu, qui définit Moïse, c'est la mida de Netzar. Netzar qui signifie simultanément la victoire et l'éternité. Vous savez que les mots hébreux ne sont pas facilement recodables dans le vocabulaire français. La langue française, je le répète souvent, il faut le faire, est une langue extrêmement riche, extrêmement nuancée, qui est véhicule d'une très haute culture. Mais c'est une langue d'essence non juive. Je sais pas comment dire ça autrement. Et la traduction d'un registre à l'autre n'est pas aisée. On est souvent obligé de traduire par approximation successive, si j'ose dire, jusqu'à ce que l'idée soit comprise en hébreu, bien que nous parlons français. Par exemple, ce qu'a fait Abraham, ce qu'a légué Isaac, ce qu'a fait Jacob, ce qu'a légué David à l'histoire d'Israël, est frappé du sceau de l'éternité lorsque c'est repris dans l'enseignement de Moïse. Je dirais très brièvement une petite introduction à cela. Vous suivez différentes disciplines d'études de pensée juive, il faut vous raccorder aux différents registres. Il y a une correspondance dans la tradition rabbinique entre l'enseignement de la Kabbale qui parle des grandes modalités de l'absolu, les émanations des séphirot, et puis d'autre part l'histoire telle qu'elle se passe sur Terre, l'histoire concrète, existentielle, réelle. Et le lien, c'est que d'étape en étape du déroulement de cette histoire, qui est l'histoire d'un engendrement de l'identité Israël jusqu'à ce qu'elle aboutisse à la réussite ultime, que l'on appellera en fin de compte messianique, mais ce n'est pas le sujet ce soir, eh bien, à travers chacune de ces étapes, un grand homme de l'histoire d'Israël a pu réaliser ce que j'appellerais le véhicule de réception d'une des valeurs qu'il faut réaliser dans l'histoire terrestre. Par exemple, la valeur qu'Abraham a réussi, c'est la valeur de chesed, la valeur de charité, la valeur de générosité, non, charité, c'est rachamim, générosité, de la valeur de grâce, comme les chrétiens l'entendent. Mais c'est la première étape de l'ordre des valeurs en Israël. L'isoler des autres valeurs fait apparaître une tradition qui, bien que s'enracinant à l'origine, dans la parole biblique, dans le discours des prophètes hébreux, finalement, a une dimension culturelle et spirituelle radicalement autre que le judaïsme, je le signale en passant. Mais c'est une valeur authentique. Elle doit être comprise en hébreu comme les chrétiens la comprennent. Il n'y a de charité authentique que si elle est gratuite et absolue. Et il s'agit d'une des modalités d'être de Dieu comme créateur qui donne l'être. Or, le don est a priori gratuit et absolu. Mais s'il n'y a que cela, le projet moral n'est pas réussi. Il y a d'autres valeurs. Et donc, nous comptons sept grands hommes de l'histoire d'Israël. ont été les véhicules dans l'histoire terrestre de la reconstitution de ces valeurs perdues à l'origine. On a renvoyé à une préhistoire d'avant le déluge. Et donc Abraham le Chesed, Yitzhak le Gvura, Yaakov et Met, là je traduis plus, ce sera un sujet chaque fois, et puis Moshe Netzach. Ce qui fait que dans l'unité des valeurs, c'est la personnalité de Moïse en tant qu'homme, et c'est sa valeur en tant que grand homme, si j'ose dire, qui assure à l'histoire des autres grands d'Israël la dimension de victoire contre le temps et donc l'éternité. Puisque Netzach signifie à la fois victoire et éternité, en général, les sources qui en parlent indiquent cette intuition qu'il s'agit d'une victoire sur le temps. La vision de ce thème est au fond la suivante. Toute l'histoire est vue comme une lutte entre la personne humaine et le temps. Si le temps est plus fort que la personne humaine est altérée, se dégrade, finit par disparaître. Mais si la personne est plus forte que le temps, alors il y a renouvellement perpétuel, recommencement perpétuel, et il y a, c'est le cas d'Israël en schématisant, il y a une manière d'être homme qui traverse l'histoire, qui traverse le temps. Netzach Israël lo yishaker, c'est un verset. La pérennité, la dimension d'éternité d'Israël ne peut pas se démentir, et c'est grâce à Moïse. Ce mystère d'Israël, comme on pourrait dire, mais ne mettez pas de connotation théologique à cette expression, c'est qu'il y a là une manière d'être homme qui a traversé tous les risques d'érosion d'identité de l'histoire. Comme nous sommes concernés, nous sommes peut-être par réaction de modestie, parfois exagérée, pas toujours à même d'apprécier cette mise à part de l'être hébreu à travers l'histoire de l'humanité, mais l'humanité s'en rend compte et le perçoit, et c'est ce que nous devons à Moïse. C'est la force de ce qu'on appelle en hébreu le chidouche. Quand la personne est plus forte que le temps, alors il y a chidouche, il y a renouvellement, on est nouveau tout en restant le même. Mais si le temps est plus fort que la personne, il y a chinouille, il y a changement, et on devient autre. Vous voyez, la connotation sémantique des racines renvoie chidouche à echad, et c'est le mois de la lune, chodesh. C'est la lumière de la lune qui se renouvelle perpétuellement et traverse les temps de l'année solaire qui, elle, est cyclique. Et l'année solaire, c'est Shana, une racine très voisine de la racine les Shanol changées. Et effectivement, l'année solaire est toujours seconde, deuxième par rapport à une première année solaire, alors que le mois lunaire est un renouvellement perpétuel de croissance, décroissance, croissance, décroissance qui traverse les années solaires. Vous comprenez là le Midrash qui compare le temps d'Israël à la lune et le temps des nations, des civilisations au temps du soleil, mais le calendrier hébraïque est l'unité des deux, le mois est lunaire et l'année est solaire, et à travers les grandes civilisations qui se développent, ont leur apogée et disparaissent, les grandes années du temps humain, il y a le mois de la lune d'Israël, mais relié à l'année solaire et qui traverse en dimension d'éternité les cycles du temps. Le calendrier chrétien est de base solaire, le calendrier musulman est de base lunaire, le calendrier hébreu, le calendrier juif, c'est l'unité du rythme du temps solaire et du rythme du temps lunaire, mais avec une, si vous voulez, une option pour, dans l'ordre de ces valeurs, le chidouche qui est plus fort que le chinouï. Je traduis. Le Talmud enseigne le chinouï est interdit. Le changement qui nous fait devenir autre est interdit. Mais le chidouche est réclamé. Le changement qui nous permet de rester. Il y a d'ailleurs dans la société juive, à travers toutes les époques de notre histoire, ces deux dangers. Ceux qui optent pour le chinouï et ceux qui refusent le chidouche. Est-ce que j'ai besoin de traduire ou c'est suffisamment clair? Et je crois que notre temps sociologique juif et israélien y compris est interpellé par cette équation. D'un côté, nous avons ceux qui ont opté pour le chinouille, je ne vais pas vous les définir, vous faites votre micro-sociologie vous-même, Et de l'autre côté, il y a ceux qui refusent le chidouche. C'est deux manières de disparaître, une en devenant préhistorique et l'autre en s'évanouissant dans un futurisme qui n'aura jamais d'appui dans le temps, dans l'histoire. Bon, vous avez compris de quoi je n'ai pas parlé. Okay, pour revenir à ce fait que nous avons une dimension d'éternité et nous la devons à la personnalité de Moïse dans l'histoire d'Israël. Or, je voudrais commencer pour introduire la première partie du sujet, la seconde sera étudiée ensemble en avril, la troisième au troisième trimestre, sur la personnalité de Moïse, c'est-à-dire ce même homme capable de prophétie et de prière, et nous verrons quelques sources à ce sujet. Et en cela, il est à la fois serviteur et maître, serviteur de Dieu, ça va de soi, c'est la traduction habituelle du récit biblique, mais il est serviteur du peuple de Dieu. Il se fait serviteur d'Israël pour pouvoir être serviteur de Dieu, et d'autre part, capable de porter la prière d'Israël dans les moments où ce n'est pas le temps de la prière et où aucune prière ne pourrait sauver Israël. On prendra quelques exemples à ce sujet. Il y a donc là une personnalité exemplaire parmi les autres grandes personnalités de notre histoire que nous appelons les Amoudim, les piliers de l'édifice qui se nomme Israël, les sept piliers. Eh bien, très rapidement, nous allons voir l'exemplarité de la figure de Moïse pour le temps contemporain de l'histoire d'Israël, mais d'abord la découvrir dans le récit biblique. Je donne quelques repères pour commencer, pour que nous prenions conscience de la complexité de cette personne, de ce profil d'identité. Moïse est connu comme étant le fils adoptif du Pharaon. Mais pendant longtemps, les 40 premières années de sa vie, lui seul et sa mère et sa sœur savent qu'il est hébreu. Et donc nous avons là un profil d'identité que je voudrais d'abord définir de façon très schématique, mais que je voudrais ensuite diagnostiquer dans notre contemporanéité. C'est le juif de diaspora exemplaire. Il s'agissait de la diaspora égyptienne. Officiellement, il est égyptien. Pour le monde extérieur, il est égyptien. Et quel égyptien ? Il est, j'allais dire, au palais de l'Élysée, enfin, il est au palais du Pharaon, et il est fils adoptif du Pharaon et héritier présomptif. Mais en réalité, il est hébreu dans son monde intérieur, dans sa personne intérieure, et quel hébreu ? Le fils du chef de la tribu de Lévi. Il y a là une personnalité paradoxale. Nous sommes tellement habitués à la lecture, disons, de type catéchisme, de l'histoire merveilleuse de l'enfance, le salut de Moïse sauvé des eaux, de l'enfance dans le palais du Pharaon, c'est digne des contes et légendes d'Israël, que nous ne rendons pas compte qu'il y a un paradoxe considérable à découvrir que le porte-parole du Dieu d'Israël est un homme d'identité mixte. Il est hébreu, mais d'une identité hébraïque refoulée. Comment dire refoulée ? C'est peut-être pas le mot exact. En clandestinité. Camouflé, peut-être, parce que c'est la même identité que celle de Joseph, mais dans le sens inverse, comme nous allons le voir. Joseph ne se camouflait pas. Mais Moïse, oui. Vous me permettez une petite parenthèse à cause de votre question. C'était pas une question, d'ailleurs, c'était une précision. Nous avons un midrash très important qui enseigne que Moïse n'est pas entré en Eretz Israël. Ça sera peut-être le sujet du troisième trimestre. Pourquoi Moïse, l'identité hébraïque par excellence, ne rentre pas en Eretz Israël ? Est-ce que ce n'est pas, je ne dirais pas, le cas de la génération contemporaine, mais d'une partie de la génération contemporaine ? Quelle faute aurait faite cette génération comparable à ce qu'aurait été la faute, je dis bien, aurait été au conditionnel ? C'est pas un problème en soi, à ce qu'aurait été la faute de Moïse qui l'empêche d'entrer en Eretz Israël. Mais voilà comment dit le Midrash. Joseph, qui a dit de lui qu'il était hébreu, sera enterré en Eretz Israël. Moïse, qui a dit de lui qu'il était égyptien, ne sera pas enterré en Eretz Israël. J'argumente. Et vous m'aiderez à retrouver le fil de l'analyse de tout à l'heure. J'argumente. En fait, Moïse n'a jamais dit qu'il était égyptien. Il a laissé dire. Il a laissé dire, mais c'est pas lui qui a dit. C'était les filles de Jéthro qui, racontant à leur père la rencontre avec Moïse, sauveur des filles de Jéthro, disent « Ish mitzri itzilanu min aroim » Un homme égyptien nous a sauvés des bergers, de ces mauvais bergers qui, de l'histoire de Jéthro. Et alors donc, on ne comprend pas ce midrash, ce n'est pas lui. Okay. Et il est en vrai responsable. Mais une réponse qui est peu connue, quand Dieu lui a dicté la Torah, et que dans la dictée de Dieu de la Torah, il y avait cette phrase, il a écrit sans rien dire. Et vous voyez à peu près quel est l'ordre de la réponse. À quoi ça nous renvoie ? Bien, ça nous renvoie à notre identité de diaspora. Je me souviens que la première fois, où je viens de citer ça hier soir dans un tout autre cours, ça m'est revenu en mémoire à ce propos. La première fois que j'ai demandé mon chemin à Ashdod en hébreu, on m'a répondu en français, à cause de l'accent. Mais même lorsque Dieu va s'adresser à Abraham pour lui dire « Lech lecha me'artzecha », eh bien nous traduisons « Va-t'en de ton pays ». Mais Ur-Kasdim, Babel n'a jamais été le pays d'Abraham, il était exilé à Ur-Kasdim. C'est un hébreu exilé à Ur-Kasdim, Abraham l'hébreu. Alors, j'interprète. Nous avons tellement adopté l'identité de nos pays d'adoption des pays du voyage que finalement, et c'est le cas de Moïse, nous pouvons dire que nous sommes tout autant français que juifs. Bon, chacun avec sa nuance existentielle et son ordre existentiel préféré. Moi, je serais conduit à dire, même en français, juif et, français et hébreu, et pas français et juif, enfin, c'est le même problème. Et que finalement, nous ne nous rendons pas compte du problème posé. Il y a une dimension de l'universel dans l'identité d'Israël qui fait que Moïse peut se considérer comme égyptien et son identité égyptienne, puisque c'était le cas de sa culture, de paysage d'exil, il est né en Égypte. Moïse est un Égyptien, Moïse est un Africain. Eh bien, je n'ai pas dit Nord-Africain. Eh bien, le Midrash va épingler cela. Il y a dans l'identité de Moïse une dimension égyptienne. Mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'elle est réelle, elle est dense. Il n'est pas n'importe quel judéo quelqu'un d'autre. Il est l'hébreu essentiel, le fils du chef de la tribu de Lévi, mais qui, comme tel, est le fils adoptif du pharaon, et qui est le pharaon, le tyran de l'époque, l'empereur de l'époque, le chef politique de la civilisation de l'époque, et son héritier présomptif. Il y a donc une ambiguïté dans cette identité, parce qu'il y a une ambivalence indéniable. Est-ce là, le Midrash induit cela ? Est-ce là la raison essentielle du fait qu'il n'est pas enterré en Eretz Israël ? Ça, nous aurons à reprendre cela le moment venu. Mais je voudrais vous citer tout de suite un verset que le Talmud cite centralement à propos de la définition de Moïse comme modèle du priant. Un verset qui se trouve dans la Parasha de Vayetranan dans le Deutéronome. Le verset qui dit Et à Berana, Vere, et à Aretz, à Tova, à Arazé, à Lebanon. Moïse sait qu'il ne va pas pénétrer en Eretz Israël, mais il demande dans sa prière que je traverse, il s'agissait du Jourdain, et que je vois ce beau pays. Je ne traduis pas la fin du verset, ça introduirait trop de parenthèses. Et alors, la traduction directe de ce verbe, Erberana, que je traverse, c'est la traduction habituelle. Les kabbalistes vont nous épingler. C'est la racine du mot hébreu. Et ça signifie que je devienne hébreu et alors je pourrai entrer dans le pays. Vous voyez jusqu'où va l'hébreu des kabbalistes ? Erberana, que je me fasse hébreu. Et puis lorsque Moïse raconte cette scène à son peuple, il dit « Vaitaber Hashem bilemahanchem » Et la traduction, c'est « Et la colère de Dieu s'est enflammée contre moi pour vous. » Mais de nouveau, au registre de tout à l'heure, « Vayhaber Hashem bi lemanchem » Et Dieu s'est fait hébreu en moi pour vous. Oui, c'est une langue mystérieuse, cette langue de l'hébreu de la Bible. Quoi qu'il en soit, il y a une différence entre Joseph et Moïse. C'est Joseph, Stira, était l'hébreu qui prend l'habit égyptien pour être au service de la dimension égyptienne de l'identité humaine. Moïse, c'est cet égyptien qui avait la, c'est cet hébreu, pardon, qui avait l'habit égyptien, qui se dépouillera de l'habit égyptien pour reprendre son identité hébraïque, qui mettra fin en cela à l'histoire qui avait commencé avec Joseph. Je referme la parenthèse qui était reliée à votre remarque. Et au fond, c'est un problème que nous avons vécu à chaque époque de civilisation. Au temps de Joseph, c'est Joseph qui est le juste, Yosef HaTzadik. Au temps de Moïse, c'est Moïse qui est le prophète. Le problème reste, et pourquoi ce prophète de la fin de l'exil n'est pas entré, lui, au pays? Ce sera encore un autre problème. Mais voilà donc sa première dimension de personnalité. Je le dis en termes contemporains, juif de diaspora par excellence. Je ne crois pas qu'il nous ayons dans notre histoire un exemple plus prestigieux du juif de diaspora. Et c'est pourtant lui qui met fin à l'exil, c'est la deuxième dimension. Le libérateur de l'exil d'Égypte, et en cela, il est la figure du libérateur. En hébreu, cela se dit Moshiyar, non pas Mashiyar, mais Moshiyar. Je vous le signale parce que la prononciation Lubavitch de Mashiyar, c'est Moshiyar, mais ça ressemble trop, c'est une autre catégorie. Moshiyar, c'est celui, Moshiyar, avec Aïn à la fin, c'est celui qui assure le salut. Le Mashiyar, le Messie, c'est une autre fonction. Et effectivement, Moïse est appelé Moshiyar. C'est sa deuxième dimension de sa personnalité. Après le juif d'identité mixte, le juif, c'était un hébreu, c'était pas un juif. Vous m'excusez ces anachronismes. Même moi, je les emploie. Ce sont des anachronismes qu'il faut reprocher aux historiens. Au temps de Moïse, il n'y avait pas de juifs, il y avait des hébreux. Les juifs, c'est bien plus tardif. Les juifs sont les judéens de l'exil. Mais, quoi qu'il en soit, c'est l'habitude qui nous fait obliger de parler ainsi. Est-ce que vous m'entendez suffisamment? Je vois qu'il y a des doutes. Non, et vous me laissez parler comme ça? Attendez. Ça va mieux? Oui. Et puis, la deuxième dimension, eh bien, c'est la dimension de le libérateur de l'exil d'Égypte, celui qui diagnostique la fin de l'exil. Comme j'ai dit tout à l'heure, et qui va prier pour cela, et qui va obtenir que ce soit le temps de la fin de cet exil d'Égypte. Parce que cet exil d'Égypte était devenu la servitude, l'asservissement, la persécution, en fin de compte, la Shoah. Il y a eu une Shoah d'Égypte colossale. D'après les traditions du Midrash, 4/5 du peuple hébreu n'est pas sorti d'Égypte. Pudiquement, le Midrash nous dit qu'il a disparu dans la nuit des ténèbres. Mais les commentateurs du Midrash indiquent « Zemi penek vodan shel Israël ». C'est pour protéger l'honneur d'Israël que c'est dit ainsi. Il s'agissait d'Israël de l'Égypte. Donc, une deuxième dimension de l'identité, le libérateur. Petite parenthèse, c'est pas dans le sujet, mais c'est pour montrer l'importance du problème. J'ai beaucoup étudié les raisons pour lesquelles, je me suis demandé, c'était une question, mais j'ai beaucoup étudié cela, surtout chez les chrétiens, les raisons pour lesquelles Pâques a pris une telle importance dans la liturgie chrétienne. Je vous dirai assez rapidement ce que j'ai pu y comprendre jusque-là. C'est que ça se rattache à la question comment comprendre que l'humanité entière ait cherché sa foi dans la foi d'Israël par cercle concentrique, bien entendu. Il y a d'un côté la chrétienté, de l'autre côté l'islam, et ce sont deux civilisations qui ont imprégné la culture universelle. Et effectivement, il y a là un consensus apparemment extérieur, mais qui se rattache aux expériences d'identité de la famille d'Abraham, que s'il y a salut, c'est le salut qui a été annoncé par Israël, en Israël. D'ailleurs, vous savez que le terme de « évangile » vient du grec qui signifie « la bonne nouvelle entendue chez les Juifs ». C'est une citation de l'évangile, même pas interprétée. Bonne nouvelle, c'est Bsora Tova en hébreu. Et lorsque l'humanité est en quête d'une espérance, est à la recherche d'une certitude de salut, elle la trouve en Israël comme modèle, comme paradigme en tout cas, sinon comme modèle. On ne peut pas ne pas se rendre compte de cela. Et alors j'ai relié cela avec ma question. Pourquoi Pâques? Pourquoi Pâques chrétienne, c'est différent que Pessah? Mais c'est finalement Pessah qui est devenu Pâques chrétienne. Ils ont même gardé le mot à travers l'araméen puis le grec. Et une réponse possible serait celle-là. C'est qu'au fond, toute créature, et c'est l'enseignement de Moïse, toute créature se sait plus ou moins consciemment, même lorsqu'elle ne sait pas se le formuler à la manière hébraïque biblique, qu'elle est en exil du Créateur. Il y a une sorte de mal-être de la créature, quelle qu'elle soit. C'est certainement vrai aussi pour l'animal, pour la plante, chacun à son niveau d'être. Il y a une prise de conscience existentielle d'être exilé de la source de l'être. Et puis, chaque tradition l'exprime à sa manière. Elle est à la recherche du salut. Elle exprime son expérience d'exigence du salut à sa manière. Les traditions, pas forcément religieuses, même les traditions de sagesse athée, comme par exemple la sagesse bouddhiste qui m'a le plus impressionné avec sa proximité de visée d'un salut à sa manière. Eh bien, c'est pas le sujet, mais je vous donne des exemples. Et voilà que l'humanité rencontre un peuple dont l'existence consiste à témoigner qu'on peut mettre fin à l'exil. Bien entendu, notre Pessah est d'abord pshat, comment dire en français, d'abord apparemment, si vous voulez, une histoire d'une fin d'exil historique sociologique. Mais ça prend une dimension d'abord dans l'âme juive et ensuite dans l'âme universelle à travers l'âme chrétienne, une dimension de salut métaphysique. Et c'est la preuve, nous avons là la preuve, si vous voulez, qu'on peut sortir d'exil. Le Talmud a surenchéri sur cette notion, d'où la force de cette personnalité de Moïse comme libérateur de l'exil d'Égypte, on ne sortait pas. Je me souviens quand j'étudiais cela au Talmud Torah, c'était avant la guerre, avant le nazisme. Bon, disait, formule midrashique, imagination orientale, enfin j'exagère un peu, mais ça allait dans ce sens-là. D'Égypte, on ne sortait pas. Et puis voilà que nous avons eu une expérience de cet ordre. D'Europe, les Juifs ne sortaient pas. Sauf miracle, il y a toujours des miracles. Et puis finalement, le rideau de fer tombe, finalement, l'Égypte s'ouvre, finalement, cette expérience-là, la Bible le dit très exactement lorsque Moïse est investi de sa mission de prophète. Vous avez eu cette expérience qu'on peut sortir d'exil, vous en deviendrez les prêtres pour toute l'humanité. Exode chapitre 19, lisez-le bien en détail. Le message essentiel que Moïse est chargé de porter à Israël au Sinaï avant les 10 commandements, c'est cela. Vous avez vu ce qui s'est passé dans votre sortie d'Égypte, et alors, si vous êtes fidèle à ma voix et que vous respectez mon alliance, vous serez pour moi la mise à part de tous les peuples, car toute la terre est à moi, c'est un message à l'échelle universelle, et vous serez pour moi une société de prêtres, Mamlechet Kohanim, Egoï Kadosh, une nation sainte. De quoi ? Prêtre de quoi ? De cette liturgie de la sortie d'exil. Et l'histoire a montré que ça s'est passé comme ça. On a appris d'Israël quoi ? La Pâque. Que la Pâque est possible. Mais qui a permis que la Pâque soit possible ? C'est Moïse. Vous avez dû remarquer cela. Là, je vous cite une citation du Gaon de Vilna. Vous avez dû remarquer cela. Qu'il y a une sorte d'apparente ingratitude vis-à-vis de Moïse dans la Gada de Pessah. Le récit de la sortie d'Égypte ne fait pas allusion à Moïse. Vous avez remarqué cela. Et le Gaon de Vilna a pointé sur le verset suivant qui est cité dans la Gada. « Moi et pas un envoyé, dit Dieu. Ani velo shaliach, eze shaliach Moshe, dit-le. Moi et pas Moïse. » Je vais essayer d'exprimer le paradoxe. Sans Moïse, la sortie d'Égypte n'aurait jamais eu lieu. Mais il ne faut pas qu'on croie que c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Parce que je crois que c'est à l'honneur de la tradition juive de s'être immunisé contre tout risque de culte de la personnalité. Je pense que c'est clair. Non, je vous dis cela parce qu'il y a un midrash que le Satan a montré Moïse alité. Je referme la parenthèse. Et effectivement, petite parenthèse pour montrer à quel point nous vivons ces problèmes contemporains. Je veux dire, avant de dire ce que je vais vous dire, que j'ai pour le rabbi de Lubavitch un respect absolu. C'est un homme éminent. Ça ne m'empêche pas de regretter ce qui se passe autour de lui. Mais on a fait une querelle, une mauvaise querelle à Maïmonide sur deux points. On a reproché à Maïmonide de ne pas dire que c'est le Messie qui ressuscite les morts et de ne pas dire que c'est le Messie qui rassemble les exilés. Eh bien, c'est Maïmonide qui avait raison. Tous les versets concernant ces deux articles de foi, je ne sais pas comment dire, proposition de la foi, indiquent que c'est Dieu qui ressuscite les morts et que c'est Dieu qui rassemble les exilés. Et vous voyez à quel point c'est simple, on ne s'en rend pas compte. Et par conséquent, la grande faute, et j'y arriverai tout à l'heure, parce que Moïse a dû prier à cause de cela, a été de diviniser Moïse, de le considérer comme un médiateur du salut. Mais, je reviens à la Gadat Pessah, la tradition d'Israël s'est immunisée contre cela. C'est pourquoi on ne peut pas ne pas être inquiet lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un renouveau de maraboutisme dans la société juive contemporaine. Et j'y viens du maraboutisme. Et pourquoi ? Parce que ça arrive de chez les Berbères, enfin les Barbares. Mais enfin, je suis de là-bas. Mais je crains d'avoir à dire que le maraboutisme chez les Ashkenazim est peut-être plus grave. Mais c'est un autre problème. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs en yiddish, maraboutisme. Comment on dit ça? On ne dit pas. Hein? Bon. C'est un phénomène qui a atteint la France et sur lequel les responsables de la communauté devraient se pencher avant qu'on arrive à des catastrophes. En tout cas, pour ça, vous lisez ça dans Libération, dans l'événement du jeudi, dans. En tout cas, voilà la dimension de la personnalité de Moïse, et nous aurons à nous référer à cela au moment des exemples de la prière de Moïse. D'autre part, il est prophète de la loi, et déjà c'est beaucoup pour un seul homme. Et d'autre part, il est prophète de la loi. C'est le prophète qui a réussi à bouleverser la religiosité de toute une civilisation de ce temps jusqu'à lui. La religiosité, c'était le respect des lois cosmiques érigées en divinité, l'astrologie païenne de ce temps-là. Petite parenthèse, les modernes ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre, sauf des cas particuliers, ce que pouvait être la dignité de ferveur de cette ferveur de religiosité païenne. Nous ne sommes même plus capables d'être païens, alors on ne peut pas comprendre cela. Je ne sais pas comment dire. Mais effectivement, c'est Moïse qui va bouleverser l'histoire de la religiosité et substituer la loi morale à la loi cosmique comme voie du salut. Et c'est Moïse, prophète de la loi. Et d'ailleurs, nous verrons que lorsqu'il tarde à descendre de la montagne, son peuple, je dis provisoirement son peuple, il y avait deux parties dans ce peuple, les Hébreux et les Hébraïsants, si vous voulez, mais j'y reviendrai, son peuple, pris de panique, demande à Aaron de refaire un symbole astrologique de la divinité médiatrice. En ce temps-là, c'était le signe du taureau, je suppose, et puisqu'on sortait du bélier. Et puis, c'est un signe, toujours un signe astrologique, les grandes hérésies. Comme par exemple, plus tard, on dira que le Sauveur est né de la Vierge, mais c'est le signe. Recoder ces choses-là, avec beaucoup d'expressions dans les évangiles qui montrent qu'il y a un arrière-plan de religion astrologique qui a été repris. Il y a beaucoup de chambres dans la maison de mon père, etc. C'est la maison astrologique. Mais je reviens au sujet, c'est un autre sujet. Et il faudra aussi s'interroger sur cette qu'est-ce qui a permis à Moïse de réaliser cette révolution dans l'histoire des religions, de la religion, pas dans l'histoire des religions. Autre chose dans l'histoire de la religiosité, bien entendu, il le doit à l'héritage hébraïque des patriarches. Il y a une civilisation hébraïque qui a précédé le temps de révélation de la Torah, c'est le Derech Eretz hébreu. Mais il le doit aussi à ce qui s'est passé dans la société égyptienne. C'est du dedans de l'état culturel et spirituel de la société égyptienne païenne de ce temps que la dialectique qui a mené à la révélation de la loi du monothéisme, qui est que la loi morale se substitue à la loi cosmique. Et je voudrais éclairer ce point avant d'entrer dans l'étude des références. C'est que il y a un enseignement dans le Talmud qui dit ceci. Jacob, déjà, aurait pu être celui à travers qui la Torah a été révélée. Mais sa génération n'a pas mérité. Ezra aurait pu être celui par qui la Torah aurait été donnée. Elle a été d'ailleurs renouvelée par Ezra. J'entends un écho, est-ce que ça ne vous gêne pas? Si, oui. Eh bien, et là, Ezra, ça n'a pas été lui parce que Moïse avait été déjà là. C'est le temps de la prophétie biblique, du temps des patriarches, Jacob, jusqu'à la fin du premier temple, Ezra, l'exil du premier temple. Et ça, je reprends la question, effectivement c'est gênant, je reprends la question à Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire, sa génération n'a pas mérité? Il ne s'agit pas de la génération des Hébreux. Comme Hébreux, il n'y avait que les 12 fils de Jacob, tous tzadikim, disent les versets. Il s'agit de la génération de l'humanité de son temps. L'état de la civilisation universelle n'était pas tel que la révélation soit possible. Est-ce que c'est clair? Et il y a un privilège paradoxal de l'état de la civilisation ambiante dans les grandes étapes de mutation de l'identité d'Israël. C'est du dedans de la civilisation égyptienne qu'a pu sortir un peuple préparé à recevoir la Torah de Moïse. Et la comparaison que je fais là pourrait être poussée très loin. C'est quand même de l'état de cette civilisation d'où est sortie à travers les péripéties de la Révolution française, mais que je prendrai ici comme péripétie, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette même civilisation qui a rendu possible le nazisme et autre chose, aussi terrifiante et aussi horrible, eh bien, qui est la civilisation d'où l'identité d'Israël a ressurgi pour recommencer son histoire hébraïque. Il y a ici un lien mystérieux de dialectique concernant l'ambiance de la civilisation extérieure. Le paradoxe est énorme. Tout ce que nous savons de l'Égypte nous est gardé par la Bible, par la Torah. Bien entendu, les historiens et les archéologues peuvent nous raconter l'histoire de l'Égypte à leur manière. Mais la Torah est imprégnée de la référence au Pharaon. Le Pharaon occupe des récits entiers. De la référence à ce qui s'est passé en Égypte, des mœurs égyptiennes. Comme si nous sommes sortis d'Égypte en portant la culture de l'Égypte avec nous, comme une sorte de véhicule de préparation à recevoir la Torah du Sinaï. Je vous cite en parenthèse... On n'a pas quitté Moïse, d'ailleurs. Je vous cite en parenthèse un enseignement du Peri Tzadik, le Rav Tzadoka Kohen Minoublin, en préface à son commentaire du livre de l'Exode, qui dit ceci. Il cite un enseignement du Talmud qui dit « Trois dons ont été donnés à Israël, et les trois à travers des épreuves. Le monde à venir, la Torah et Eretz Israël. » Je le dis en hébreu pour préciser les nuances de la formule. Shalosh matanot nitnu le Israël ve kulan alidei isurin. Et la question est pourquoi un cadeau doit être donné à travers des épreuves? Il y a contradiction entre cadeau et épreuve. On pourrait croire qu'il s'agit des épreuves a posteriori du don et qui permettent d'avoir mérité le don et donc le droit à l'acquérir, à transformer un don en acquis, le mérite, qui est une catégorie de la tradition juive importante. Tant que le don reste encore un dépôt, la volonté du donateur n'est pas réalisée, il voulait que ce soit à moi, mais c'est encore qu'en dépôt. Il faut que je le mérite, que je l'acquière, pour que le don devienne un acquis, pour que Matan Torah devienne Kinyan Torah, il faut l'effort de Talmud Torah. Et c'est vrai de toutes les valeurs et de toutes les vertus. Donc il ne s'agit pas de ces épreuves-là. Et le Peri Tzadik enseigne, il s'agit des Issourin, des épreuves, des 20 générations qui ont précéder Abraham, et pour Abraham, ne serait-ce que pour Abraham, il y a un monde à venir. Et toutes ces épreuves de ces 20 générations dont la Torah nous a raconté l'histoire n'étaient pas inutiles. Elles ont mené à Abraham, et a posteriori d'Abraham, elles trouvent leur signification, je n'ai pas leur justification. L'épreuve la plus tragique, c'est l'épreuve où on ne trouve pas de signification. C'est le livre de Job. Mais dès qu'on entrevoit la possibilité d'une signification, ça reste dramatique, mais la tragédie est évacuée. Et puis, le petit tzaddik continue, et Eretz Israël, c'est moi qui bouge trop, en fait.
Non, pour les jambes devant, ça va, mais derrière...
À plus près, il faut aller. C'est pas difficile. Ça va mieux ? Ah ben oui. J'entends, d'ailleurs. Et alors, le pays ça y continue. C'est grâce au patriarche qu'on a droit à Eretz Israël, centralement Isaac, d'ailleurs, parce que Abraham est né en exil et mort en Eretz Israël. Jacob est né en Eretz Israël, mais il est mort en exil. Isaac, lui, est... n'a jamais quitté Eretz Israël. La personnalité d'Isaac est extraordinaire dans ce problème, mais ce n'est pas le sujet. Et alors, effectivement, les patriarches ont accepté d'être étrangers chez eux, et c'est cela qui, ces issourines-là, qui ont assuré la promesse irréversible du don du pays à leur descendance. Et je vous citerai d'ailleurs le verset qui concerne Abraham, quand Abraham dit « Ger betoshav anochi imachem » lorsqu'il parle aux Hittites pour acheter la caverne de Marpella pour enterrer Sarah à Hebron. Et alors, il dit, je suis étranger séjournant. Ger vetoshav anochi imachem. Et effectivement, cette terre leur était déjà donnée au patriarche. Je profite pour répéter cela. Ce n'est pas la terre promise, ça c'est une formule chrétienne. Ce sont les chrétiens qui disent la terre promise. C'est la terre donnée en hébreu. Parce que la terre promise, il ne faut pas la prendre. Parce que si on la prend, elle n'est plus promise. C'est un peu insidieux ce que je dis là, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Eh bien, de toutes les façons, la terre leur était donnée, mais ils ont accepté la condition d'étrangers sur leur terre pour en assurer le droit de possession à leur descendance. Et c'est ces issourines-là. C'est terrible d'être étranger chez soi. D'ailleurs, les Israéliens commencent à savoir de quoi il s'agit. Okay. Mais je vous citerai quand même cette formule paradoxale. Nous avons passé toute l'histoire humaine à nous croire chez nous, ailleurs. Maintenant que nous sommes chez nous, on nous dit que nous sommes ailleurs. Vous voyez à peu près le Mida Keneged Amida. Okay. C'est l'histoire des Issourines des patriarches. Et puis, ajoute le Peri Tzadik, le mérite de la Torah, les sourines qui ont permis qu'on reçoive la Torah en don, et ensuite il faut la transformer en acquis, c'est les tribus qui ont vécu l'exil. Et il y a trois exils. Les descendants, les fils d'Israël qui ont vécu l'exil d'Égypte sont sortis, préparés à recevoir la Torah écrite. Ils sont sortis de l'exil de Babel, le deuxième exil, préparés à recevoir la Torah orale. Et tenez-vous bien, il sort de l'exil des Dômes, le troisième, préparé à recevoir la Kabbalah. Et c'est comme ça que ça se passe dans l'histoire. Effectivement, les grands d'Israël ont ces trois niveaux de la Torah à chaque sortie d'exil. Les grands d'Israël sortis d'Égypte avaient Torah Shevirta, Torah Shevalpé, Torah Tamistar. De même, les grands d'Israël sortis de Babel. De même, les grands d'Israël sortis de Rome. Mais Rome, c'est la sortie d'exil contemporaine. L'exil de Rome, c'est l'exil de ce 2000 ans. Mais le chidouche, si j'ose dire, c'est que le peuple tout entier a reçu la Torah écrite à la sortie d'Égypte. Le peuple tout entier a reçu la Torah orale à la sortie d'Égypte, la Mishnah. Le peuple tout entier est en train de recevoir la Kabbalah à la sortie de Rome. Vous remarquez que cette sagesse de la Torah, cette lecture de la Torah qui était cachée, clandestine, ésotérique, jusqu'à notre temps, est en train d'être désoccultée. Et je raconte souvent ce qu'était mon enfance à ce sujet. Pour chercher dans une bibliothèque, la plus érudite soit-elle, un livre sur le judaïsme, Israël, la Torah, la Kabbalah, c'était, il fallait aller derrière des rayons poussiéreux et il n'y avait rien. Subitement, vous avez un phénomène de librairie étonnant. Ça ne veut pas dire qu'on comprend, mais les livres sont là. C'est-à-dire, c'est disponible, c'est préparé. Donc, effectivement, ce qu'enseigne le Père Tzadik est en train de se réaliser. Et, dans tous les cas, c'est cela, si vous voulez, la grandeur de Moïse. C'est que il est le prophète de la loi, le prophète de la Torah, et c'est grâce à l'Égypte pour la Torah écrite, c'est grâce à Babel pour la Torah orale, c'est grâce à Rome pour la Kabbalah. C'est chaque fois un sujet de 6 mois d'études, ce que je viens de dire là. Mais simplement pour indiquer que, effectivement, sortant d'un exil, nous mettons à l'abri les catégories propres à la civilisation extérieure qui nous permettent de recevoir la Torah. Ça, c'est le génie de Moïse. Et encore, une dernière dimension, c'est qu'il est le priant par excellence pour le peuple. Je parlerai tout à l'heure, rapidement, ou la prochaine fois, du parallèle qu'il y a entre les 5 livres de la Torah de Moïse et les 5 livres des psaumes. Le priant, c'est David, mais il prie pour lui. Et il prie aussi, mais par ricochet, pour son peuple. Et il nous donne le modèle de la prière de l'homme à Dieu. Ce parallèle entre les 5 livres de la Torah de Moïse et les 5 livres des psaumes est important. Parce que là, se dévoile, déjà, j'arrive, si vous voulez, au deuxième moment de l'analyse, prophétie et prière. Se dévoile.